en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui l'un des rares grands scientifiques français à être connu du grand public, Yves Coppens, figure éminente de la paléontologie contemporaine. Yves Coppens, qui est professeur honoraire au Muséum national d'histoire naturelle et au Collège de France, qui est membre de l'Académie de médecine et depuis 1985, membre de l'Académie des sciences. Yves Coppens, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel. 7 questions récurrentes posées à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été, Yves Coppens, jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel?
Oui, alors j'y ai pensé un petit peu, mais un tout petit peu seulement, parce qu'il m'est venu tout de suite. Ça a été, bien entendu, mon arrivée en Afrique. Le prétexte de me rendre travailler en Afrique est apparu dans mon labo en 1959. Ça s'est passé de la manière suivante. Des géologues avaient trouvé des vertébrés fossiles, les avaient envoyés au Muséum d'histoire naturelle. J'étais à ce moment-là à l'Institut de paléontologie du Muséum. Et la personne qui s'appelait René Lavoquin, qui est mort d'ailleurs il y a peu de temps, qui avait reçu ces fossiles, n'avait pas le temps de les étudier. Donc je pense que ce monsieur a cherché dans l'établissement quelqu'un de plus disponible. Il m'a trouvé, comme je travaillais les éléphants, les proboscidiens pour ma thèse, et qu'il y avait des proboscidiens, des dents d'éléphants dans ces restes envoyés du Tchad. Je n'ai pas eu de peine à déterminer ces restes. Et puis, c'était une très belle découverte. C'était la découverte de fossiles de ce qu'on appelle le Pliocène, c'est-à-dire plusieurs millions d'années. C'était peu fréquent à l'époque. On connaissait ça un petit peu en Afrique du Nord, un peu en Afrique de l'Est, mais c'est tout. Donc, c'était la première fois en Afrique centrale. Et mon contact avec les géologues a fait que je suis parti dès janvier 1960. J'avais donc 25 ans et ça a été pour moi le grand départ dans une carrière africaine qui n'est toujours pas interrompue puisque j'étais en Éthiopie au mois de février, j'étais à Madagascar au mois de mars, j'étais en Afrique du Nord au mois de mai, voilà.
Mais à quel âge avez-vous commencé à faire des fouilles? C'était en Bretagne, je crois.
Oui, alors c'était en Bretagne. J'ai toujours été attiré par la préhistoire, par... je pense l'imaginaire qui accompagne la préhistoire, l'archéologie, la paléontologie. Et j'ai des souvenirs de petites collections qui ont commencé comme ça à mon domicile breton, chez mes parents, probablement à l'âge de 6 ou 7 ans. Et j'ai un point de repère parce qu'après, on a déménagé pour la région parisienne. Et ces souvenirs datent de Bretagne et d'avant le déménagement en question. C'est très précis, quoi.
Mais votre père était lui-même un scientifique, un physicien.
Oui, mon père
de
était...
De renom, d'ailleurs. Comment a-t-il regardé ça quand il vous voyait jouer avec des...
Il était curieux de nature. Et donc, ça l'a forcément intéressé. Et il a participé très volontiers dans mes petites prospections d'amateurs comme ça sur le terrain. Et ma sœur, qui est toujours vivante, on a 6 ans de différence, de décalage. Elle est plus jeune que moi de 6 ans. Elle s'en souvient très bien et n'a pas les meilleurs souvenirs de cette époque puisque je réquisitionnais la famille le samedi ou le dimanche, probablement le dimanche, et je les emmenais sur toutes les terres cultivées. Je les déployais, vous voyez, en tirailleurs pour parcourir le terrain labouré et recueillir tout ce qui pouvait être apparu à la suite du labour. Alors, les dimanches de ma petite sœur, ce n'étaient pas les meilleurs. Alors que moi, je me réjouissais et il me fallait du personnel, forcément.
Alors, pour le grand public, le moment le plus important de votre carrière, c'est 1974. C'est la mythique Lucie. Pourquoi était-ce si important, Lucie, en fait?
Elle était importante à l'époque parce que, premièrement, c'était une préhumaine. Je dis ça de manière un peu simple, mais... c'est plus facile à comprendre, c'est pas vraiment encore une humaine.
3 millions d'années, un peu plus.
3 millions d'eux, c'est ça. Et à l'époque, elle était la plus ancienne connue, donc en ce sens, elle était importante. Et à l'époque, c'est la première fois que nous, notre équipe ici à Paris, mon équipe à Paris, avait reconnu sur ses traits anatomiques qu'elle était debout, certes, comme toute préhumaine, mais qu'elle était en même temps bipède et arboricole. Donc elle marchait sur ses deux pattes de derrière, un peu comme nous, pas tout à fait, et elle grimpait un peu comme ceux d'avant, et pas tout à fait non plus. Et cette sorte de double locomotion était une nouveauté. Et je me rappelle à l'Académie de médecine, dont j'ai fait partie ensuite, lorsque je décrivais un être primate, donc proche de nous, qui grimpait et marchait à la fois, il me disait « Non, il y a un mélange, quoi. Il y a un bassin et des pattes postérieures d'un humain et puis des membres supérieurs d'un grand singe. » Eh ben non. Et depuis, on a trouvé Aurorine qui fait la même chose, et puis on a trouvé Ardipithecus qui fait la même chose, et on a trouvé un petit de Lucie, qui a été appelé Selam, et qui aussi révèle dès son âge de quelques années, 4-5 ans, les mêmes caractéristiques.
Alors, dans la communauté scientifique, il y a quand même une date importante vous concernant. Vous avez, et on peut dire, hein, vous avez épaté pas mal de vos confrères. En reconnaissant, vous êtes trompé. C'était en 2003. Je dis, je me suis trompé. Vous pourriez rappeler dans quelles circonstances? C'est quand même rarissime, ça.
C'est-à-dire que ce que la communauté sait bien, en tout cas les paléontologues et aussi les zoologues et les botanistes, c'est que la spéciation, c'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle espèce, se fait plus volontiers dans une île, dans un secteur isolé. Pourquoi ? Parce que la petite communauté qui se trouve isolée a un nombre plus restreint de gènes, et donc le choix d'alliance est plus réduit, et ça entraîne l'émergence de caractères particuliers. C'est-à-dire que la population isolée, petit à petit, dérive. C'est un vilain mot qui ne dit pas bien ce que ça veut dire, mais qui veut dire. Mais ça veut dire qu'elle se démarque, qu'elle diverge par rapport à la population d'origine. Et c'est comme ça que petit à petit se forme une espèce. Et ce que j'avais envisagé, c'est que la Rift Valley avait pu être l'événement qui, il y a 8-10 millions d'années, avait coupé une population d'ancêtres communs aux chimpanzés et aux hommes en deux. La population à l'ouest se développant vers les chimpanzés arboricoles et la population à l'est se développant vers les hominidés beaucoup plus terrestres et debout. Et en l'occurrence, c'est probablement comme ça que ça s'est passé, mais pas là où je l'avais imaginé. Et donc, mon terme de « East Side Story », c'est-à-dire l'histoire de la rive orientale, en quelque sorte, ne convient plus. Et bien sûr qu'à ce moment-là, il fallait que je dise, que je fasse amende honorable, que je dise que je m'étais trompé. Ceci étant dit, je dois vous dire que ça ne m'a pas ému du tout, quoi. Ça m'a beaucoup plu, même. Parce que, je veux dire que, je ne veux pas exagérer, ce n'est pas un masochisme, mais je suis vraiment, vraiment, sincèrement, parce que j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte, là, très, très attiré par la vérité scientifique, par la science, quoi, tout court. Et le fait que la vérité ne soit pas celle-là, eh ben, j'ai quitté celle-là en essayant de trouver autre chose. Et ça ne m'a pas pesé. Et je suis le meilleur copain, j'espère, du monde de Michel Brunet, qui est celui qui a acheté le pavé dans ma mare, ma mare à moi.
Une chose étonnante, quand on regarde votre itinéraire, vous n'êtes resté que 3 ans directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Oui, ça, ce sont les circonstances.
Ça vous embêtait ou vous étiez mis au Collège de France?
Non, d'une part, ça m'embêtait, oui. Oui, ça, je dois dire que la direction d'une grosse boîte, enfin, ce n'est pas une très grosse boîte, ça faisait 250 personnes, quoi. Mais je signais 50 papiers par jour. Le côté administratif et administrateur de grandes institutions peut plaire. Hein. Moi, j'ai très bien connu Hubert Curien, qui adorait la question scientifique et qui l'a menée à merveille. Et moi, très sincèrement, ça ne m'a pas plu. Et le jour où Jean Guiard, qui était un collègue du Musée de l'Homme, qui était l'ethnologue, m'a dit « Oh, il faut nous quitter, vous avez l'air malheureux. » Je me suis senti 10 fois plus malheureux, probablement que je ne l'étais. Il m'a convaincu quoi, que j'étais malheureux.
Par contre, Collège de France, là, vous vous êtes senti
C'est formidable. À l'aise
dans vos baskets. Quoi.
Oui, c'est formidable parce que d'abord, le Collège de France, ce sont 52 monstres d'indépendance côte à côte. Et donc, on peut poursuivre sa recherche tout à fait comme on l'entend, la recherche alimentant un enseignement. Donc, j'avais à la fois la recherche qui, évidemment, est le fond de mon bonheur, et par ailleurs, la possibilité de l'exposer immédiatement, de tester mes résultats devant un public qui me rendait bien mon enthousiasme parce qu'il était très, très présent au rendez-vous, quoi. C'était, et c'est toujours, un lieu privilégié. «
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire aujourd'hui sur votre domaine d'activité, Yves Coppens, donc la paléontologie ? Si vous aviez une chose à faire ressortir de la manière dont ça se passe ou des découvertes que l'on fait ?
Ben moi, je suis très frappé par ce que mon père m'a appris, en un certain sens, ou en tout cas sa discipline, c'est-à-dire la force par l'union, en gros. Le grand vainqueur dans cette histoire-là, c'est le CERN. Enfin, le grand vainqueur, c'est la recherche, en fait. Et les physiciens ont su se grouper, sûrement, souvent, pour grouper à la fois des crédits, pour grouper aussi des esprits et des réflexions. Et nous, peut-être que notre science est plus jeune, et on met du temps à ça. On met du temps à ça probablement parce qu'il y a peu de fossiles humains, ce sont surtout les fossiles humains qui, en tout cas, m'occupent moi pour le moment, et les fossiles humains sont rares, donc les fossiles humains font de leurs découvreurs des vedettes, et donc il y a quand même un grand paquet d'égo à la tête de cette discipline. Et la fédération des recherches est plus difficile à réaliser. Mais je pense qu'on y parviendra, et personnellement, en tout cas, je n'ai jamais rencontré de coffre-fort fermé, et on m'a toujours montré les fossiles que je venais voir.
Alors, si on voulait donner deux ou trois points de repère essentiels par rapport à la période que vous-même vous couvrez, donc l'homme apparaît 3 millions 200 000 ans, mais alors après commence un humanisme extraordinaire.
Oui, c'est-à-dire que l'homme, c'est vrai que juste avant lui, il y a eu donc ces préhumains, dont Lucie. Et les préhumains étaient beaucoup plus inféodés à un milieu particulier, qui à la fin était la savane, qui au début était la forêt claire, mais ça a toujours été un milieu en partie découvert. Et ensuite, ça s'est découvert vraiment, et l'homme est apparu. Il est apparu d'ailleurs pour ça. Et cet homme, il a accumulé d'une part la nécessité de manger dans un milieu très sec, et il s'est mis à manger de la viande, et comme il s'est mis à manger de la viande, il est devenu beaucoup plus mobile, ça va de soi. Hein. Quand on cherche du gibier, il faut courir après. Ensuite, il a développé son encéphale, et ça lui a donné une réflexion meilleure, ça lui a donné la possibilité de savoir qu'il savait, d'anticiper, et ça lui a donné la possibilité de tailler la pierre au lieu d'utiliser la pierre de manière directe. Donc avec une pierre élaborée qui prolongeait son corps, il a pu accéder à des niches écologiques auxquelles il n'avait pas accès auparavant. Ensuite, comme il a réussi son adaptation, son effectif a grandi vraiment. Et puis enfin, on l'a déjà dit, comme son cerveau s'est développé, il a développé aussi sa conscience, développé sa réflexion, développé sa curiosité, incontestablement. En tout cas, tout ceci a fait que le premier homme, dès qu'il a été Homo habilis ou Homo rudolfensis, le premier quoi, a bougé. Il a bougé. Et à ce moment-là, il s'est déployé à travers, dans le sens de la géographie, à travers l'Afrique d'abord, puis le Proche-Orient, puis l'Eurasie. Et comme on comprend bien que c'était de petites populations et c'était un immense territoire, les petites populations se sont réparties sur des territoires immenses et n'ont pas pu se rencontrer ensuite tous les 3 jours. Et ça a fait une diversité biologique, ce qu'on appelle la biodiversité, mais cette fois une biodiversité humaine, que l'on n'attendait pas, c'est-à-dire qu'à une même époque, il y a eu un homme moderne, l'Homo sapiens, aux côtés d'un homme de Néandertal en Europe, aux côtés d'un homme de Java à Java, d'un homme de Flores à Flores, et puis d'un petit homme qu'on vient de trouver en Sibérie, et on va sûrement en trouver d'autres. Donc une floraison d'espèces humaines, mais du même genre humain quand même.
Entre le nôtre et le Néandertal, il y a eu quelques petits coquins, là.
Oui.
S'est métissé quand même.
Oui, ben oui, c'est tentant, une néandertalienne derrière un buisson. Enfin, je raconte des bêtises, mais ceci étant dit, oui, mais ça a dû se faire.
C'est quoi, c'est 100 000 ans avant nous, c'est quelque
oui,
chose
c'est
comme ça.
Ça, c'est-à-dire à une époque où le néandertal n'était pas encore trop néandertalisé. Je m'explique. Je vous ai dit que l'isolement faisait l'espèce, mais l'isolement ne fait pas tout de suite l'espèce. La spéciation, et non pas spécialisation, mais ça en est une aussi, la spéciation se fait progressivement. Or, on sait que Néandertal, qui a été fabriqué par l'Europe, par un isolement en Europe, a reflué vers le Proche-Orient avant d'être une vraie espèce. Autrement dit, quand Néandertal a continué à se néandertaliser en Europe, et qu'ensuite, vers 40 000 ans, l'homme moderne l'a rencontré en Europe, là, c'était des espèces suffisamment différentes pour que le métissage ne puisse plus se faire. Or, quand l'homme de Néandertal a reflué vers le Proche-Orient, Sapiens et Néandertal n'étaient pas suffisamment séparés génétiquement pour ne pas faire des enfants. D'où le petit 1 à 4% de Néandertal que nous avons en nous et que notre collègue suédois de Leipzig vient de mettre à jour.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous nous dites que tout ça a progressé dans le sens de la géographie. Arrivons en Extrême-Orient. Ah ben après, il y a un océan. Oui. Il y a l'Amérique. Alors, ils l'ont traversé ou il y a eu une génération spontanée de l'autre côté?
Non, il y a pas de génération spontanée. Ben, ça a dû exister tout à fait au début de l'histoire, hein, il y a 4 milliards d'années. Il y a 4 milliards d'années, là je prends une autre échelle. Quand on est passé de la matière inerte à la matière vivante, c'est une espèce de génération spontanée, là quand même. Alors, en ce qui concerne les humains, ils sont passés en Amérique, en effet. Mais vous savez, c'était l'époque des glaciations. Or, pour faire des glaciers, il faut de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, on ne la prend pas n'importe où, hein. Il n'y a pas 36 solutions, on la prend dans les océans. Et en l'occurrence, les océans ont fourni l'eau du glacier, par exemple, qui couvrait l'Amérique du Nord. Et cette eau-là, elle a été puisée dans l'océan Pacifique. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Bering était en fait un morceau de continent. Et les chasseurs qui étaient au bout de l'Orient sont passés en Alaska sans s'en rendre compte.
Quoi.
Oui, sans difficulté et sans s'en rendre compte. Quoi. C'est triste d'ailleurs, parce que finalement, l'Amérique aura été découvert aussi bien par ces gens-là que par Christophe Colomb, ni les uns ni l'autre ne s'en rendent compte.
Oui. Alors, deuxième grande question. Vous nous avez expliqué donc, que l'homme était apparu à l'occasion d'un grand changement climatique,
oui.
C'est-à-dire que l'événement commandait l'évolution. Vous êtes d'accord avec Darwin, grosso modo, sur le thème de l'évolution. Par contre, sur la façon dont ça s'est passé, et en particulier sur la place du hasard, là, divergence.
Oui. Oui, c'est-à-dire que quand même, Darwin a 200 ans, on l'a fêté il n'y a pas longtemps, on l'a fêté l'année dernière. Et c'est un grand monsieur qui a travaillé sur le long terme, qui a sorti une œuvre colossale, considérable. Et son idée de sélection naturelle, sélection par la nature, n'en demeure pas moins juste et est encore appliquée et pratiquée aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'a étonné, si vous voulez, Darwin n'était pas un homme de terrain, enfin je ne me compare pas à lui. Mais moi, je suis un type de terrain, c'est-à-dire que sur le terrain, lorsque vous voyez une centaine d'espèces confrontées à un changement climatique et lorsque vous voyez que sur les 100 espèces, il y en a 95 qui vont s'adapter dans le bon sens, quoi, dans la bonne direction, vous vous dites que c'est bizarre que le hasard fasse si bien les choses. Alors, j'ai eu un début d'explication, notamment par de longues conversations avec De Duve. Christian De Duve est un médecin belge, prix Nobel de médecine, je crois. Et lui me disait qu'il fallait prendre en considération le stress. Autrement dit, quand il y a un changement climatique, par exemple, c'est un stress. Une nécessité d'adaptation, c'est un stress. Et à ce moment-là, les mutations, au lieu d'être une par-ci, une par-là, sont 500 par-ci, 500 par-là, quoi. C'est-à-dire, au fond, la mutation demeure aléatoire. Mais les bestiaux en question, que j'ai vus s'adapter de façon merveilleuse et presque magique, au lieu d'avoir un choix entre deux mutations, avaient un choix entre plusieurs centaines de mutations. Donc, ce n'est plus tout à fait le même hasard. Donc, les généticiens ont raison. Enfin, je n'allais pas dire qu'ils avaient tort. Et la mutation demeure bel et bien une mutation comme ça au hasard.
Mais
ceci étant dit, quand on multiplie les éléments, ce n'est plus tout à fait le même hasard.
Alors la chose étonnante, c'est vous décrivez cette évolution, ne serait-ce que pour l'espèce humaine ou préhumaine, sur 10 millions d'années, et puis patatras, 100 000 ans avant nous, ça s'arrête. Pourquoi?
Oui, ben ça ne s'arrête pas. Ça donne l'impression.
Ben ça...
Oui, ça donne l'impression de s'arrêter, mais c'est pas un vrai arrêt. C'est que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'évolution culturelle, le développement culturel, qui est né forcément de la conscience il y a 3 millions d'années. Eh bien, il a évolué à l'ombre du développement biologique, de l'évolution biologique, et il a évolué de manière un peu insidieuse. Et ce n'est que vers une centaine de milliers d'années peut-être, hein, moi j'ai situé ça de manière un peu grossière, mais qu'il y a un renversement des tendances, c'est-à-dire que cette fois, le développement culturel est tel qu'il va se mettre à doubler, à dépasser le développement naturel et du coup le laisser sur place, quoi, le laisser en plan. Parce que lorsque un individu, une population se trouve agressé par un agent extérieur, au lieu de réagir biologiquement en prenant le temps, elle va réagir culturellement de manière beaucoup plus rapide. Et à partir du moment où la population en question a eu la parade culturelle, elle n'a plus besoin de réaction naturelle puisque la solution a été trouvée. Donc on comprend très bien que l'évolution biologique ait marqué un petit peu le pas jusqu'à ce qu'un jour, une agression extérieure ne trouve pas une parade culturelle et qu'on soit bien obligé de remettre en route notre petit système biologique.
Alors vous dites souvent qu'on a encore 75% de choses à découvrir, mais et
moins,
vous, vous, quelle est aujourd'hui la grande question que vous vous posez, l'interrogation qui vous passionne, quoi.
C'est un peu la compréhension des modalités de l'évolution. Vous savez, pour un scientifique, le maître mot, c'est toujours comprendre, quoi. Et en ce qui concerne la paléontologie, on voit bien que les êtres vivants descendent les uns des autres, que ce que l'on appelle le transformisme ou l'évolution est une réalité. Ce n'est pas du tout une hypothèse ou une théorie. C'est bien plus que ça, c'est une réalité. Mais on débat, on discute encore, j'allais dire on se dispute, mais c'est vrai, c'est forcément vrai, sur la manière dont cette évolution fonctionne. Et c'est ça qui n'est pas encore très clair, et c'est ça qu'il faudrait arriver à mettre au point. Quoi.
Alors vous parlez de disputes, le grand public est un peu étonné de voir les divisions qui existent entre scientifiques sur des questions comme le climat et tout cela. Pour vous, est-ce que ces divisions sont anormales ou est-ce qu'au contraire, elles sont le signe d'une très grande vitalité et que c'est ça qu'il faut qu'il se passe, quoi. Il faut des hérétiques, il faut des déviants, il faut remises en cause, que c'est beaucoup mieux qu'un consensus qui serait très mauvais signe en fait.
C'est-à-dire que lorsque le consensus existe, il a en général quelques raisons d'exister, mais qu'il y ait un débat, ça fait partie de la progression de la science, ça fait partie du développement de la science, que dans la mesure où le débat est sincère et l'argumentation également, il n'y a rien à regretter. C'est tout
sur
à fait...
le climat, on n'a pas tout à fait cette impression-là quand même.
Oui, quand ça prend des allures un peu...
Ça café du commerce parfois, non ?
Un peu passionnel, oui, c'est ça. Ça c'est un petit peu dommage, un petit peu désagréable. Mais qu'il y ait un débat, ma foi, pourquoi pas. Et le malheur un peu, c'est que ce débat est agité par les médias, et les médias, c'est à vous que je le dis, ne donnent pas aux scientifiques tout à fait le temps qu'il leur faudrait pour débattre. Dans des congrès, le temps est mais parfois un petit peu plus long et un vrai débat s'installe. Autrement, les arguments sont forcément raccourcis, contractés. Et dans cette mesure-là, il n'est pas comme il pourrait être.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec l'un de ceux qui sont en première ligne, d'ailleurs, dans cette question du climat ? C'est Claude Allègre, lorsqu'il écrit dans « La science et le défi du XXIe siècle » L'histoire des civilisations humaines est d'abord le résultat des progrès de la science et de la technique, le reste suit.
Je n'y ai pas vraiment pensé, mais c'est sûrement en partie vrai, parce que la science, la recherche, est évidemment l'essentiel du moteur économique et intellectuel d'un pays. Oui, ça, je pense que ça joue un rôle important. Je reviens à Hubert Curien, ce n'est pas exprès, mais il l'avait dit un jour, ce n'est pas spécialement à moi d'ailleurs, que... Il fallait soutenir la recherche, ça, c'était de toute façon son boulot, si je puis dire. Mais il fallait soutenir la recherche surtout parce qu'un pays qui ne faisait plus de recherche faisait des pas en arrière, quoi. Se mettait forcément à la traîne des autres pays. Et ce n'était évidemment pas ce que l'on souhaitait pour la France, puisque c'est dans le gouvernement français qu'il se trouvait.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel, élargissons un peu les perspectives à votre regard sur l'évolution du monde en général et l'évolution de notre société. Qu'est-ce qui, sur ce plan, et avec toute la part de jeu que ça implique, vous paraît, Yves Coppens, essentiel à dire ? Si vous avez une chose à dire, encore une fois, il y a une part de jeu là-dedans, parce que ressortir une seule chose...
À propos de la mondialisation, moi, elle me plaît bien, cette manière dont la société humaine se développe, et comme sur le plan technologique, voilà. On reprend ce que l'on vient de dire. Sur le plan technologique, la communication a fait des progrès considérables, je n'ai pas besoin de vous le dire. Le nombre de supports s'est élargi rapidement, quand on regarde ça avec une toute petite perspective temporelle, on s'aperçoit que c'était très très rapide. Et aujourd'hui, la communication à travers le monde est immédiate et quel que soit l'endroit où on puisse se trouver. Alors dans l'univers, je n'en sais rien, on n'a pas encore fait les essais, mais en tout cas dans le système solaire, pourquoi pas, et dans le monde, c'est certain. Donc c'est bien, et ça permet en tout cas aux gens de se parler. Je pense que se parler est essentiel. La parole est apparue avec l'homme, en tout cas sous la forme articulée que l'on connaît. Et je pensais que ce sourire était important aussi. Et c'est d'autant plus possible que désormais, comme vous le savez, on se transmet des messages non seulement sous la forme écrite, mais sous la forme aussi iconographique. On peut s'envoyer des portraits comme ça. Il y a un certain Facebook d'ailleurs qui existe, et puis beaucoup d'autres moyens. Celui-là est un peu particulier. Mais... Et donc, je trouve cette évolution intéressante, intelligente, et tout à fait dans le sens du génie de l'humanité, que non seulement j'apprécie, mais que j'admire. Moi, je suis très, très admiratif de l'humanité.
Mais en quoi cette vie de scientifique, hein, à l'échelle de dizaines ou de centaines de milliers d'années, voire de millions d'années, vous amène-t-elle à avoir un regard différent ou non sur l'histoire et sur l'homme, différent de celui de la plupart d'entre nous ?
Oui, je n'en sais rien.
Est-ce que vous dites, l'histoire contemporaine, par exemple, allez, relativisons, quoi, à l'échelle des dinosaures.
Oui.
Non ?
Oui, sûrement.
Vous avez la tentation ou pas ?
Oui, c'est-à-dire que l'impression que ça me donne ou que me renvoient les gens, notamment des gens de proximité, des gens de ma famille, c'est qu'il y a plus dans mon attitude de peser de l'essentiel et de l'accessoire. Et finalement, l'essentiel est extrêmement réduit, ce qui est bien commode, hein, ce qui est bien pratique, il n'y a pas grand-chose de très important. Et ça tombe bien, puisque c'est l'essentiel, votre titre, hein, le titre de cette grille.
Bien sûr.
Et donc, peu de choses essentielles, si bien que quand il y a des petits conflits sur des choses accessoires, je m'efforce d'expliquer combien elles sont dérisoires par rapport aux grands problèmes du monde, si tant est qu'il y ait des grands problèmes du monde.
Oui, ça veut dire que quelque part, ça aide à gommer la dimension tragique que nous voyons pour la plupart d'entre nous dans la vie ou pas ?
Ça doit sûrement, il me semble, enfin, parce que encore une fois je suis dedans, mais apporter une certaine distance. Donc à partir du moment où on a de la distance, on a un peu plus de sérénité et de calme, en tout cas devant l'existence. Oui, je disais l'autre jour à une journaliste qui en était étonnée mais amusée en même temps, je lui dis finalement il ne se passe pas grand-chose. Vous rendez compte de ce que vous dites ?
Dans la conclusion donc de votre dernier livre, Le présent du passé au carré, la fabrication de la préhistoire, vous citez une phrase de l'auteur du Cheval d'Orgueil, donc Pierre-Jacques Essébias,
que j'ai bien connu, hein,
l'homme à la casquette, le marin. Sans hier et sans demain, aujourd'hui ne vaut rien. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de remonter à 220 millions donc, d'années, l'apparition des dinosaures, 60 millions, leur fin, 10 millions les préhumains, 3 millions les humains. Est-ce qu'on est obligé de remonter aussi loin pour comprendre le monde présent ? Est-ce que ça aide ?
Oui, oui. Qu'on soit obligé de remonter à toutes ces marches, ce n'est peut-être pas nécessaire. Mais par contre, prendre comme ça de la distance, ça donne d'abord l'épaisseur du temps, ça place l'homme aussi, ça situe l'homme. Ça veut dire que, vous savez, les questions d'origine, de situation, et puis d'avenir, ce sont des questions que se posent tous les humains. Je crois que c'est inhérent à la nature humaine et le premier homme, dès qu'il a été conscient, s'est posé les questions que je me pose moi-même, quoi. Donc il n'y a rien de nouveau à cet égard. Et donc c'est une sorte d'angoisse existentielle et qu'il faut apaiser d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que tous les mythes de la Terre essayent de l'apaiser en trouvant des histoires de solutions. Et ce discours scientifique est une des manières d'apaiser aussi cette angoisse, en expliquant d'où on vient, en expliquant ce qu'on fait là, en expliquant vers où on a l'air d'aller, en expliquant que, d'après l'expérience qu'on a du passé, nous, hein, c'est quand même notre discipline qui fait ça, on peut imaginer que dans l'avenir, l'évolution ira vers plus compliqué et mieux organisé, puisque ça fait 14 milliards d'années que ça dure. Ça serait bizarre que tout d'un coup, ça change d'orientation. Donc je crois que c'est important de donner cette distance et cette profondeur et cette épaisseur. Et je souhaiterais, moi je le fais chaque fois que je peux, mais c'est très modeste et c'est très amateur forcément, très artisanal, mais je le fais chaque fois que je peux auprès des petits, des enfants, qui mesurent un petit peu en tout cas ce que je veux dire.
Mais est-ce que ça veut dire que, concrètement, vous avez eu l'impression plusieurs fois dans votre vie que Lucie vous prenait la main, quoi, grosso modo?
Oui, je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup plu. Un enfant dans une classe de CM2, que j'ai visité l'autre jour, ici dans le 6e arrondissement, m'a dit, en se trompant peut-être, j'en sais rien, mais il m'a dit, mais dites-moi, quand est-ce que Lucie vous a trouvé ?
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. À vos yeux, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps ?
Moi, je ne vois pas de vraie hypocrisie, sauf peut-être les déclarations tout à fait récurrentes de gens qui disent « à partir de maintenant, tout va être transparent, tout va être clair et on ne cachera rien ». Et je trouve ça d'abord très faux, parce que ce n'est pas possible, et ensuite très dommage, parce que c'est justement une des qualités de l'homme, de pouvoir, non pas dissimuler, mais dans une certaine mesure, si, mais de pouvoir choisir, de pouvoir choisir. Je ne suis pas convaincu du tout qu'il faille tout dire. Je ne suis pas convaincu du tout qu'il faille tout dévoiler.
Il y a une forme de totalitarisme là-dedans. Il y a une forme de...
Oui, je crois que c'est un manque de discernement, quoi. C'est un manque de discernement et c'est dommage parce que c'est vers abstraction d'une des grandes qualités, justement, de l'esprit humain qui a cette possibilité de cracher des quantités de choses, mais de peser, de mesurer, c'est toute la qualité des nuances, c'est l'esprit de finesse quand même. Alors au lieu de l'esprit de finesse, de manière extrêmement en premier degré, là, on dit, on va tout dire, bah non, par pitié, ne dites pas tout. Alors d'abord, c'est pas vrai, et ensuite, c'est pas à peine de le dire, puisque ce n'est pas sérieux.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est, Yves Coppens, l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir ?
On en a parlé un petit peu, c'est la mondialisation et cette manière qu'ont les gens, enfin qu'ont toujours eu les gens, mais ces facilités qu'ils ont aujourd'hui d'aller se rencontrer. Je crois que c'est Ford, le grand industriel, qui disait « la réunion est un commencement ». C'est vrai que la réunion est un commencement. Donc je disais tout à l'heure, se parler, se sourire et se réunir, c'est une belle chose. Et moi, j'ai grande confiance en l'humanité. Je sais par ailleurs que l'humanité est très diversifiée et qu'il est précieux de conserver aussi, d'une certaine manière, sans leur porter préjudice, la diversité culturelle. J'aimerais qu'on ait aussi une année de la culturodiversité, au même titre qu'on a une année de la biodiversité, et quand on en parle autant. Parce que finalement, les traditions des gens, et Dieu sait que c'est par petite population à ce moment-là qu'il faut compter, non pas par État et à plus forte raison par continent.
Là, c'est le breton qui parle ?
Oui, un peu, oui. Parce que la tradition d'une population, sa tradition quotidienne, les gestes quotidiens, le langage, les chants, bien sûr, enfin la poésie, tout ce qui va avec, tout ce qui est superflu et qui est en fait l'essentiel. Nous y sommes encore. La gastronomie, enfin, tout ça, c'est une diversité qui serait agréable de conserver parce que c'est le patrimoine, c'est la richesse du patrimoine de l'humanité tout entière, quoi.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre parce qu'elle est quand même très, très intime. Hein. Quel a été, Yves Coppens, le plus grand échec de votre vie et comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter ?
Oui, je vais vous dire quelque chose qui est un petit peu latéral, finalement. Je ne vais pas répondre directement parce que je ne sais pas trop, d'ailleurs, comment répondre. Je ne veux pas dire que je suis systématiquement heureux, mais c'est quand même un petit peu ça.
Vous avez une prédisposition quand même assez...
Oui, c'est ça, à l'optimisme et à la joie de vivre et tout va bien. Je dirais que c'est le manque de temps pour réfléchir. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux, mais très souvent, je me suis dit, on galope, on est actif, on est suractif, on enchaîne les activités, finalement, on enchaîne les activités sans souvent y penser parce qu'on a l'expertise d'avoir ces activités-là, de les faire et de les accomplir et de les réussir. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas un temps d'arrêt. Comme il y a des crans d'arrêt, je dirais que je regrette de ne pas avoir eu jusqu'ici, en tout cas, suffisamment de temps d'arrêt. Et j'ai beau être dans un système qu'on appelle honoraire, ce qui est abominable, vraiment quel mot épouvantable. Donc je n'ai toujours pas suffisamment, en tout cas, de temps de réflexion. Et dans une certaine mesure, c'est un échec, parce que je pourrais l'imposer à mon entourage, aussi bien personnel que professionnel.
Oui, enfin, vous créez, donc... Créer sans réflexion, c'est quand même assez rare.
Oui, non, mais bien sûr qu'on
réfléchit. Il y a une réflexion spontanée,
assez,
quoi.
Pas assez. Regardez si bien des gens, enfin, je ne vais pas citer d'exemple, avaient simplement un tout petit temps de réflexion avant de décider, avant de lancer une opération. Enfin, je ne sais pas.
Ouais. Ça enfin, me semble... Il y en a d'autres qui ont une culture, qui ont une sédimentation culturelle et intellectuelle qui leur permet d'avoir un instinct, non?
Non. Oui, oui. Non, bien sûr.
Comme disait le général de Gaulle, d'ailleurs. On ne peut pas faire de politique sans avoir cette sédimentation-là qui permet de réagir très vite.
Ah, absolument. Non, mais j'apprécie. La sédimentation en question, si vous voulez, elle se fait justement au même titre que la réflexion. C'est d'ailleurs une sorte de réflexion, mais avec un temps d'arrêt, quoi. On ne peut pas dire une pause, parce que pause, ça fait un peu repos, mais ce n'est pas un repos du tout. Mais en tout cas, le temps d'un sédiment, oui, pourquoi pas, d'un dépôt.
Septième et dernière question récurrente de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, quelle est, Yves Coppens, votre motivation essentielle dans la vie? Ça aussi, c'est intime.
Hein, faire de mon fils un homme. Il se trouve que j'ai eu un enfant en tard. Il a 14 ans, presque 15. Aujourd'hui même, avant de venir vous voir, il est venu m'annoncer qu'il était le deuxième de sa classe. Il est en troisième et il passe le brevet dans quelques jours. Donc ça marche bien. Il est assez relax, ce qui me réjouit en un sens. Pas suffisamment travailleur à mon goût, mais peut-être que ça va venir. Mais ses résultats sont intéressants, et c'est pour ça que je vous le dis. C'est parce que j'en suis tout à fait fier, et que, comme le disait Kipling, j'aimerais en faire un homme.
Oui, votre fils, oui. Oui. Alors, vous avez donc une carrière de découvreur étonnante, exceptionnelle. Mais vous avez une carrière de vulgarisateur qui est tout aussi exceptionnelle. Les livres, le conseil scientifique au documentaire, les chroniques de radio. Pour vous, ça fait partie du travail d'un scientifique aujourd'hui, ça?
Ça fait partie, oui, oui, de toute façon. Mais je ne traîne jamais la pierre à un chercheur qui ne veut pas le faire, parce que quelquefois, il ne sait pas le faire. Et donc, ça n'a pas d'importance. Un chercheur est un chercheur. On lui demande d'abord de chercher.
Et de trouver.
Oui, et de mener sa barque de chercheur. Par contre, je n'avais pas du tout, moi, cette vocation. Il s'est trouvé que lorsque j'ai commencé à découvrir des restes humains, les médias sont venus à moi. Comme j'aime bien les gens, je les ai reçus. Et comme je les ai reçus, je les ai bien reçus, enfin, dans la mesure du possible. Et il s'est trouvé que j'ai été probablement suffisamment clair pour eux pour qu'ils reviennent.
Donc, il faut dire que vous êtes impressionnant quand même, vous prenez un tout petit bout d'os et vous nous reconstituez le monde. Là, on est face à un compteur, enfin, bon, on peut le dire devant vous êtes quand même un compteur comme il y en a très peu. Quoi. On est là, on est bouche bée. Mais ça, ça fait 40 ans que je vous écoute, qu'on fait des émissions ensemble, je reste toujours bouche bée.
Non mais ça me plaît bien, hein, parce que j'aime bien les gens d'abord. Oui. J'aime bien, j'ai envie de passer mon enthousiasme. Et puis quand je raconte des choses, j'ai envie qu'elles soient comprises. Et donc, pour qu'elles soient comprises, il faut les simplifier. Et on n'est jamais aussi simple. Je suis en train d'écrire un petit texte, là, je l'ai relu tout à l'heure, il faut que je le reprenne. Ça ne saute pas aux yeux, quoi. Il faut que les choses soient vraiment très, très, très limpides et transparentes. Je reviens au manque de discernement de tout à l'heure, mais ça, c'est autre chose. Et la vulgarisation, qui, encore une fois, n'était pas du tout dans mon esprit lorsque j'étais enfant. Je voulais être chercheur et ne faire que chercher et bien sûr trouver. C'est venu de manière accessoire et ça a pris le tiers de ma vie, quoi, le tiers de mon existence à peu près aujourd'hui.
Alors dans la conclusion de votre dernier livre, donc Le présent du passé au carré, la fabrication de la préhistoire, vous citez donc un grand rugbyman, Daniel Herrero, qui dit « Tu enseignes autant ce que tu es que ce que tu sais ».
Oui.
Bon, est-ce que ça veut dire qu'au fond vous avez un besoin viscéral d'aller vers les autres et de vous révéler?
Sûrement. J'ai sûrement envie quand même, oui. Oui, c'est sûrement ça. c'est vrai que j'aime bien les gens de manière très, tout à fait naturelle, instinctive, comme ça, spontanée. J'aime bien les publics, vraiment quels qu'ils soient. Je n'ai jamais vu, au premier contact, de différence entre les gens. Ça me facilite les choses. Hein. C'est vrai, parce que quelquefois, on m'envoie des chercheurs qui, paraît-il, sont insupportables. Et je les provoque, et c'est amusant, et souvent ils me restent fidèles, et il leur est arrivé à un certain nombre d'entre eux de faire des thèses avec moi, alors qu'ils tournaient le dos à toute carrière universitaire. Et donc, aimant bien les gens, les gens me le rendent, et ça m'est agréable, finalement, c'est ça que je vais chercher. Quoi.
Le goût des autres est désarmant. Quoi.
Je vais chercher. Oui, c'est ça.
C'est un peu
oui,
ça.
C'est ça.
Yves Coppens, merci. Je rappelle que vous venez donc de publier chez Odile Jacob ce livre intitulé « Le présent du passé au carré, la fabrication de la préhistoire ». C'est un livre qui nous conduit avec votre brio et votre simplicité habituelle sur les traces des premiers humains donc, et dont nous sommes les descendants. Merci et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci.